Vous êtes bien sûr Radio Oulin. Jean-Hugues Larcher, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Alors Jean-Hugues, tu m'as dit tout à l'heure, on va parler de mon actualité si tu veux bien, et on va parler d'un livre.
Oui. On va parler d'un livre, oui, on va parler d'un livre qui est mon second livre.
Ah bon? Je pensais que tu avais écrit plus de livres que ça, moi.
Bah déjà deux, c'est déjà pas mal, hein. Alors on va dire jamais 203 peut-être. Pour l'instant, nos deuxièmes.
Alors, on peut commencer par le premier en quelques mots. C'était quoi ton sujet sur ton premier livre?
Alors, le premier, c'était sur un peintre américain qui s'appelle Wilhelm de Kooning. Alors, Wilhelm de Kooning, il fait partie des expressionnistes abstraits avec Pollock et quelques autres qui s'appelaient aussi les irascibles. C'était des irascibles. Donc, c'était des gens assez radicaux qui ont essayé de sortir la peinture de son académisme. On est dans les années 40, 50. Et de Kooning, il a une particularité, c'est qu'il décide de s'intéresser aux motifs féminins, particulièrement. La peinture devient de plus en plus abstraite, ils sont dans l'expressionnisme abstrait, mais lui reste quand même dans une certaine figuration, comme Picasso, et il va mettre des femmes, il va faire des portraits de femmes, qui font un peu peur, un peu hideuses, un peu frontales, des grandes toiles, de, on va dire de 3 mètres sur 2, et il va faire ce qu'on appelle la Woman 1. La Woman 1, elle a les yeux exorbités, elle est très très colorée, elle est en sarouel, on a l'impression qu'elle remonte sa jupe, voilà. Alors il représente peut-être la femme américaine dans un certain rapport à l'hystérie. Et il en fait une seconde, il en fait une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Je ne sais pas s'il en a fait une septième. Il en a fait au moins six, fondamentales. Et il va, à ce moment-là, commencer à être internationalement connu à cause de ces women. Parce que, à cause de cette figuration des femmes, qui paraît brouillonne, qui paraît excessive, qui paraît bariolée, qui paraît peut-être, comme avec Picasso, une confrontation avec les femmes. Voilà, donc ça m'a intéressé. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Le rire de Kooning.
Mais comment est-ce qu'il est venu à toi ?
Il est venu à moi un peu par hasard. Il est venu à moi parce que j'avais envie de faire un dialogue avec ma maman à l'époque. Et je ne savais pas comment parler. Je voulais écrire là-dessus. Moi j'écris depuis un petit moment. J'ai écrit dans des revues préalablement, plusieurs revues. Et j'avais écrit des velléités, un texte un peu court sur de Kooning. Et ça s'est un peu développé, ça s'est un peu déployé.
Excuse-moi, c'est quoi le rapport entre de Kooning et ta maman ?
Alors, de Kooning, alors de Kooning, il n'est pas direct, mais comme j'arrivais pas en fait à écrire vraiment sur ma mère, j'ai écrit sur une femme qui était un petit peu peut-être oppressante, comme pouvait l'être ma maman parfois. Et oui, bien sûr, mais il faut dire ça, bien sûr. Dis salut à Mitou, comme ça, coucou. Coucou Mitou. Et donc, j'ai presque en fait fait un dialogue avec cette peinture de femme. Elle m'a paru dans ce qu'elle était. Enfin, en tout cas, j'ai voulu la parler, j'ai voulu la faire parler, j'ai voulu m'y confronter à cette puissance féminine. J'ai toujours essayé un peu de me confronter, moi, dans ma vie. C'est pour ça qu'il y a un livre sur les Amazones à côté de moi. À la puissance féminine, qui m'a toujours un peu fasciné. C'est-à-dire le côté un peu masculin des femmes, quand même. Le côté pas femme fatale, mais femme forte, femme puissante. Amazone, peut-être, oui. Voilà.
Rien à voir avec la femme castratrice.
On n'est pas très loin. on n'est jamais très loin de tout ça. On n'est jamais très loin. La castration, c'est un peu. Moi, j'ai mis ça un peu dans mon texte. On a l'impression que de Kooning, il règle un peu ses problèmes de castration en montrant ces femmes aussi fortes qui semblent le dominer. Et lui, il essaie de rattraper ça en les peignant de façon comme ça, presque hystérique lui aussi, si tu veux. Il y a une confrontation quasiment hystérique, on dira. Mais je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Et donc, j'ai fait ce livre. Il a été édité. Et puis, il a eu son chemin, il a eu un bon chemin.
Est-ce que maman l'a lu ?
Alors maman elle a lu, je pense qu'elle n'a pas compris trop. Et puis après, enfin. Non, en fait, le livre elle a pas lu, parce qu'elle était. Non, le livre elle a pas lu. Le texte que je devais faire sur elle, elle a pas lu. Le texte sur de Kooning, je crois qu'elle l'a pas lu, mais ça a mis du temps. Entre le texte que j'ai fait dans une revue avant que ma mère disparaisse et sa sortie en 2019. Ma mère était morte depuis plusieurs années, donc elle n'a pas lu le texte. Mais le texte a eu une assez bonne réception, parce que comme il est émergé depuis Bordeaux, et que c'était un texte sur un peintre un peu difficile, que les gens connaissaient sans connaître, en fait.
Oui, parce que de Kooning, on connaît c'est universellement connu.
C'est universellement connu par les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art. Autrement, c'est pas si connu que ça. Il se trouve, la parenthèse que je fais, c'est comme ça, c'est que c'est le peintre le plus cher du monde. Pendant sa vie et après, même aujourd'hui, c'est le peintre le plus cher du monde. Il est plus cher que Picasso et il est plus cher aussi que Léonard de Vinci, puisque le Salvator Mundi a été déclassé du tableau le plus cher du monde, parce que en fait c'était l'atelier et pas Vinci. On a vu que c'était pas Vinci. Donc c'est de Kooning aujourd'hui qui, avec le tableau Excavation, est le peintre le plus cher du monde.
Alors, excusez-moi, Excavation.
Excavation.
Excavation. What it means?
Oh, I don't know very much, but it means excavation.
Yeah.
Excavation. C'est un tableau très très construit, très à la fois. C'est un tableau qui est mi figuratif, mi abstrait. Il y a des figures qu'on pourrait reconnaître, mais en fait il y a un tel foisonnement de figures hachées dans tout le tableau qu'on est entre le figuratif et l'abstraction, parce qu'on à la fois on n'est pas dans l'abstraction parce qu'on reconnaît les figures, mais les figures sont un peu méconnaissables aussi. Donc ça m'a intéressé. Je me suis toujours intéressé à ce rapport figuration. Abstraction, c'est-à-dire quand est-ce que ça commence la figuration, quand est-ce que ça commence l'abstraction. Ça m'a toujours passionné, c'est pour ça que j'aime autant les nymphéades Monet, qui sont, dit-on, le début de l'abstraction, le problème de la surface, entre la surface et la profondeur, le ciel, la surface de l'eau et la profondeur. C'est là qu'est censé, mais là on est un peu intello, qu'est censé naître l'abstraction. Donc voilà, donc après, ce qui s'est passé, j'ai appelé aussi ça le rire de Kooning, je le répète à chaque fois, parce que j'avais trouvé un catalogue sur un marché où de Kooning était arc-bouté dans un terrain vague, avec des traces de bulldozer, et il riait, on ne sait pas pourquoi il riait, et il était photographié par un mec qui s'appelle Hans Namus, qui est un grand photographe, qui a photographié les peintres des années 50 et 60, et il était arc-bouté, il riait. Alors je me disais, il rit de quoi, hein, pourquoi il rit comme ça, et alors, et c'est sur cette place-là qu'il a construit ensuite son atelier de verre, son immense atelier de verre, comme il était très riche, sur l'île de Long Island. Il a pu construire un grand atelier de verre, un peu comme la pizzeria ici, à côté, un truc de verre, où il avait une lumière formidable. Il était un peu isolé de New York, où il avait eu des ateliers pendant longtemps. Et moi, j'ai toujours été fasciné par le fait que Monet ait un jardin à lui, que de Kooning est un immense comme ça. Et donc, je suis un peu fasciné par ces peintres. Cézanne, lui, il avait la montagne Sainte-Victoire. Donc ce besoin de grand espace, ce besoin de luminosité, ce besoin de bouger son corps, d'être comme ça, libre de créer, sans retenir ses gestes, sans confinement, être complètement déconfiné dans sa pratique, tu vois. Et donc de pouvoir faire des grands tableaux, comme il était riche avec des grands... Voilà. Donc ça m'a fasciné, parce que c'est quelque chose que je ne ferai jamais, mais que je trouve assez admirable.
Est-ce que tu veux dire par là que tu as essayé de peindre ?
Un petit peu. Mon père était un peu un peintre du dimanche et il m'a initié pour la première fois quand j'avais 18 ans à un tableau de Cézanne. On a commencé à faire les joueurs de cartes et après on a fait les régates Argenteuil de Monet. Donc je me suis dit, quand je peins, quand je copie, parce que je ne créais pas mais je copiais, j'ai l'impression que mon temps m'appartient. J'ai l'impression que là je retrouve mon temps. J'ai du temps à moi. J'ai pleinement le temps. Je ressens ce qu'est le temps à soi et une espèce de plénitude d'avoir son temps à soi. Et voilà, et c'est peut-être pour ça que je me suis autant intéressé à la peinture par la suite. Après, j'ai fait un peu de sculpture, du modelage, mais j'ai toujours cru que quand on s'intéressait à l'art, il fallait quand même avoir une pratique à côté. C'est pour ça que je prends des leçons de piano depuis quelques temps, parce que je m'intéresse à la musique.
Alors du coup, on est assez curieux de savoir, après de Kooning, aujourd'hui, là, c'est quoi ton deuxième livre ? C'est sur quel sujet ?
Alors, il n'y a pas de sujet particulier.
Si, à mon avis, il y a une femme quelque part.
Il y en a plusieurs, même. Bon, après, évidemment, que ces questions de woman, ces questions de la femme, elles sont toujours très présentes. La question d'une femme dans un espace public, Quand une femme arrive dans un, quand une belle femme arrive dans un espace public, le temps s'arrête. Les hommes regardent, les serveurs regardent, les cuisiniers regardent, les passants regardent. Il y a une belle femme, c'est ça, tout s'arrête. C'est étonnant. Dans un musée, quels que soient les chefs-d'œuvre que tu vas voir, si une belle femme arrive, le plus beau Van Gogh, le plus beau Rembrandt ou le plus beau Caravage, il va disparaître un peu par cette présence physique qui peut sentir bon avec ses cheveux, sa bouche, ses yeux, ses vêtements, ses chevilles fines, tout ça.
On te sent amoureux.
Je suis un peu amoureux. J'essaie de pas l'être de moi-même, mais j'essaie de l'être. De l'être du monde en tout cas, voilà, de la beauté du monde, puisqu'on parlait de la beauté tout à l'heure ensemble.
Et alors c'est quoi le titre de ce livre?
Alors ce livre il s'appelle Seul Mozart, parce que le nom de Mozart évidemment c'est toujours un peu pour faire le malin. Mozart c'est le musicien le plus gai du monde, le plus joyeux, le plus qui redonne la joie, qui met toujours un peu de sautillement dans sa musique. Et on a toujours l'impression d'être dans un pré, dans la campagne, dans quelque chose de bucolique et dans quelque chose de joyeux, de toujours joyeux. Il y a vraiment Mozart, pour moi, c'est la joie. Alors j'ai appelé ça Seul Mozart parce que ce livre est construit sur 25 articles différents et il y a un de ces articles qui s'appelle Seul Mozart. Et donc ce sont des exercices d'admiration sur Cézanne, sur Mozart, sur Charlie Parker, sur le fruit orange, l'orange. Sur Billie Holiday, sur Soutine, sur Bordeaux. Voilà. Donc il y a plein de thèmes qui sont abordés dans un ordre que j'ai essayé de mettre en place, avec un petit déploiement. Voilà.
Est-ce que c'est un recueil?
Alors, c'est un recueil d'articles, en tout cas. C'est un recueil qui peut-être fait somme, qui peut-être fait livre. C'était ça l'idée. Depuis 12 ans, j'écris assez régulièrement des articles pour différentes revues. Et je me suis dit à un moment donné, il faut publier les résultats, il faut faire une espèce d'archive, et j'ai eu la chance de pouvoir mettre un peu de couleur dedans, donc la librairie olympique, Jean-Paul Broussac, mon éditeur, après De Kooning, ça faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas fait de livre, m'a dit, qu'est-ce que tu as proposé? Et je lui ai dit, je te propose ça. Et comme c'est un érudit en peinture, c'est un érudit en art, il m'a suivi sur ce projet, et on a fait quelque chose qui peut-être tient la route. Voilà, ça on sait pas. Mais
qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent en fermant le livre après avoir lu la dernière page?
Alors, je sais pas ce que j'aimerais qu'ils disent en fermant la dernière page, mais ce que je sais, c'est que déjà l'objet qui a été fait par les imprimeurs finalement, parce que ça a été fait à Pamplune, il a été fait, ça devait être une couverture grise et c'est plutôt une couverture blanche. Et en fait, les gens déjà trouvent que l'objet est joli. C'est déjà pas mal. C'est déjà un peu attractif. Voilà. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent? Je sais pas. Moi, j'aimerais que mes amis trouvent que ce que je fais.
Alors, qu'est-ce que tu as aimé dire?
Ce que j'ai aimé dire, c'est qu'il y a peut-être une sortie au marasme général de la société occidentale. Il y a peut-être une sortie par les arts, qui ne serait pas forcément la répétition d'un trauma, mais qui serait peut-être la sortie d'un trauma, c'est-à-dire un espoir, quelque chose d'un peu... Moi je parle un peu de religion aussi, hein. Je parle de mon voyage à Assise, hein. J'étais à Assise quand j'avais 50 ans, il y a une dizaine d'années, et j'ai trouvé un peu de force, de la difficulté mais de la force. Donc que partout dans le monde, il y a de la force à trouver, il y a de la beauté à trouver, il y a des rencontres à faire, comme toi tu fais dans ton travail, et voilà. Je sais pas, de toute façon, on n'écrit pas pour un public, on écrit parce qu'on a peut-être des choses à dire. Si c'est réceptionné à peu près comme tu pensais, c'est déjà énorme, c'est déjà bien, et surtout... ce que j'aimerais qu'on dise, c'est que c'est pas trop mal pour pouvoir continuer à le faire, pour pouvoir continuer à produire encore autre chose et continuer peut-être à faire un peu plus d'orfèvrerie dans l'écriture, à faire un peu plus de travailler plus, à travailler plus pour gagner moins, mais juste à oui, à continuer le fil de la vie, un fil de la vie où il y ait le moins d'angoisse qu'à faire. Où il y ait le moins d'angoisse possible qui soit communiqué, où il y ait le, où il y ait le, le plus de d'espoir, en fait, de vivre, malgré ce qu'on a vécu pendant un an et demi. Mais ce qu'on a vécu pendant un an et demi, moi, ça m'a traumatisé, oui et non. Ce qui m'a traumatisé, c'était surtout les contraintes sociales, le contrôle social, la surveillance, et de l'État, et des gens entre eux, la méfiance. Surtout la méfiance, c'est-à-dire que l'autre être humain était une méfiance, c'était un éventuel ennemi, alors qu'on ne savait pas s'il était malade ou pas. Donc quelqu'un de malade, ça peut être une méfiance, mais quelqu'un qui n'est pas malade, la symptomatique, c'est une connerie totale, pour moi. Messieurs les médecins, coucou. Et voilà. Donc moi, de toute façon, la question, c'est la question de l'art qui m'intéresse, la question philosophique aussi, le prochain recueil que je prépare, ça sera un peu plus philosophique. Mais j'ai voulu passer d'abord par la lumière des tableaux, par la lumière musicale de Charlie Parker, par la voix de Billie Holiday, par la lumière de Bordeaux, par le mouvement de Soutine dans ses tableaux, par la dernière scène des Lumières de la ville de Chaplin, où il y a ce rapport entre ce clochard et cette femme à qui il a payé l'opération des yeux, qui retrouve la vue, et qui se moque de lui dans un premier temps parce que c'est un clochard, et quand elle le reconnaît tactilement, qui devient totalement, qui fond pour ce mec qui a, dans les apparences, elle lui donnerait un franc, mais elle le proposait pas de rentrer dans son magasin. Voilà. Donc c'est cette question quand même de l'humanité fondamentale qui est quand même l'agissement de l'écriture, je crois. Les poètes, les écrivains, ils sont toujours, quand ils sont pas trop complaisants, dans cette ouverture pour trouver une solution, pour montrer leur ouverture au monde, oui.
Alors tu parles beaucoup de lumière, là, depuis... La lumière. Et du coup, on parle au travers de la peinture, aussi de la ville de Bordeaux. Moi, ça me fait penser à un mot, c'est cette fameuse expression qui dit « le siècle des lumières ».
Voilà. Alors le siècle des lumières, moi, il est très agissant chez moi, quand on voit le livre. Parce qu'il y a un texte un peu coquin sur Fragonard, sur la balançoire de Fragonard. Il y a un autre texte un peu coquin sur un nu de boucher, qui est un peu jeune, hein, oulala. Et voilà, donc de toute façon, la lumière, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la lumière des yeux d'une femme, des yeux des êtres humains, de cette beauté...
D'un enfant.
Et d'un enfant aussi, absolument, voilà, sans complexe, avec tout ce qu'on imagine dès qu'on regarde un enfant dans la rue, c'est comme si on avait du désir, mais non, on regarde un enfant, j'étais dans un jardin public avant de venir, il y a un enfant qui regardait à moi, là il voulait attraper le pigeon, tu vois, et c'est merveilleux, parce qu'il y a une fraîcheur fondamentale qui te fait du bien, voilà. Donc toute cette suspicion des gens qui ont des problèmes dans leur tête, et qui sont pas à l'aise, justement, avec leur sexualité, qui ont pas... Qui est-ce qui, aujourd'hui, a véritablement une sexualité épanouie? C'est la grande question qu'il faut poser au monde. Et qu'on en ait une ou pas, il faut pas tricher avec ça. Il faut rester... artiste, il faut rester serein, et on n'a pas d'obligation de résultat dans rien, en fait. On est dans le monde, il y a des moments où on a la chance de faire une belle rencontre. Moi, j'ai fait une belle rencontre, je suis resté 10 ans, j'ai fait quelques belles rencontres dans ma vie, et ça me porte toujours. J'ai un peu plus de mal à en faire aujourd'hui, parce que les femmes sont devenues un peu plus des Amazones, quand même, voilà. Mais j'ai des bons amis, hommes et femmes, avec qui j'ai des relations équilibrées, on dira, voilà, d'équilibre, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rivalité, il y a des choses, donc voilà, donc vivre le plus simplement possible, en fait, le plus simplement, mais quand même, en ayant ces grandes œuvres qui soient avec nous, ces grands tableaux dans les livres de peinture, la bibliothèque, voilà, c'est tout. C'est un livre là-dessus, en fait, c'est un livre sur la bibliothèque et les tableaux et la musique, donc les arts, en fait, qui t'accompagnent. Seul Mozart, parce que Mozart, peut-être, est un peu le chef de file de ça, parce qu'il a beaucoup produit, il a fait des opéras, il a fait Don Giovanni. Comme je dis, dans Don Giovanni, il y a 8 tubes, hein. Il y a 8 tubes, c'est assez énorme. Voilà, donc seul Mozart, c'est un peu prétentieux peut-être de servir de Mozart, mais en même temps, ça me paraît emblématique d'une société du 18e, comme tu dis, au 18e siècle, il y avait peut-être, même si c'était la royauté était encore là, il y avait quand même des gens qui étaient opprimés, mais le 18e, il y avait quand même des lumières, il y avait quand même des femmes qui tenaient salon, il y avait une liberté énorme. Et il n'y avait pas de revendication revancharde pour essayer d'emporter le morceau. Voilà. Aujourd'hui, moi qui suis commerçant d'autre part, je sais ce que c'est que le rapport commerçant, et que c'est quand même tout ça assez vilain, ce rapport commerçant. Et on est en plein, justement, tout devient commerce. C'est-à-dire qu'Internet, c'est aussi maintenant... On est sur Internet pour faire sa propre promo, en fait, en fin de compte. Facebook, c'est ça. Voilà, pour vendre ses livres, pour trouver quelqu'un. Voilà, alors je vais mettre ma gueule, comme ça je vais sur Tinder, titata, titata. Et puis je vais donner rendez-vous, puis que je vais arriver, je vais être déçu, ou l'autre va être déçu. Donc voilà, donc c'est ça. Donc, moi c'est vrai que le 19e m'intéresse pas, le 20e non plus, je suis un peu comme Solers là-dessus, mais le 18e me rafraîchit, parce qu'il y a Mozart, parce qu'il y a Haydn, parce qu'il y a... Et puis après, en musique, eh ben on a le jazz, on a le bebop, avec Charlie Parker, que j'adore, dont j'ai parlé, où là, on a la grande forme du jazz, on a une liberté, on a les noirs qui viennent dire aux blancs, bah, t'as vu, nous quand on fait de l'art, on vous pète la gueule, quoi. On est, voilà. Alors tout à l'heure tu parlais de l'Afrique, mais moi j'adore Charlie Parker, que je peux écouter sans connaître bien les morceaux non plus, mais j'ai mes remèdes. Ce sont, en fait, les grands artistes, pour moi, ce sont des remèdes. Comme les bonnes personnes que je rencontre. Ce sont des remèdes. Et il faut toujours avoir des remèdes, à mon avis.
Jean-Hugues, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à très bientôt. Merci. Ouais.